Radio Django à écouter sur radio.django.fr. Et ce soir, dans La Rose des Vents, on parle de voyage, de tourisme et plus spécifiquement de tourisme solidaire. Parce que comprendre la quête du voyage nous renseigne aussi sur l'être humain et les évolutions de nos sociétés. Alors Daniel, déjà, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'histoire du tourisme ?
Alors le tourisme moderne a pris son envol en Occident, après la Seconde Guerre mondiale avec les Trente Glorieuses, période marquée par une amélioration des conditions de vie qui permit le loisir des vacances au plus grand nombre. Le tourisme s'est démocratisé et globalisé dans les années 70.
Et qu'est-ce que ça représente, ce marché du tourisme, aujourd'hui ?
Alors, c'est une réelle industrie. Le tourisme figurerait en quête du commerce mondial devant l'automobile et le pétrole. Les recettes du tourisme international en 2013 se chiffrent à 7 000 milliards de dollars. Et on est passé de 25 millions de touristes dans les années 50 à 1,13 milliard de touristes en 2014.
Ah oui, quand même.
C'est énorme. Un chiffre, en plus, qui va ne cesser de croître d'ici 2020, d'après l'Organisation mondiale du tourisme. Or, on sait que depuis que la Grèce antique, l'écoumène, en fait, qui désigne la partie habitée et exploitée de la surface terrestre, avec le développement du tourisme, ne fait que reculer, ce qui n'est pas sans conséquences économiques, sociales et environnementales.
Mais on assiste pourtant ces dernières années au développement d'un tourisme plus responsable, non ?
Je dirais oui, oui. Mais ce tourisme dit responsable, solidaire ou encore humanitaire est aussi pernicieux. Le tourisme n'est-il pas avant tout une activité égocentrée, une compensation thérapeutique, comme le dit Rodolphe Christine, sociologue et écrivain.
Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Flatt. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la direction d'Alliance Sud et responsable du centre de documentation Infodoc à Berne et Lausanne. Vous proposez en 2017 plusieurs conférences sur le thème tourisme et développement durable. Alors, Pierre Flatt, dans quel contexte s'inscrit ce cycle de conférences ?
Alors, ce cycle de conférences s'inscrit tout d'abord dans l'année internationale du tourisme durable qui a été déclarée comme telle par l'ONU. Donc, c'était pour nous une occasion d'aborder cette question parce que cette question est évidemment très en lien avec le Sud, pour les raisons que vous connaissez, mais de manière assez asymétrique. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse pour ces raisons-là. Et puis également, si l'ONU, disons, a choisi de consacrer cette année au tourisme durable, c'est quand même aussi peut-être pour dire quelque chose sur le tourisme de masse. C'est dans ce sens-là aussi qu'on peut aborder ces aspects-là.
On a vu justement éclore ces dernières années plusieurs formes de tourisme alternatif, comme le tourisme solidaire, équitable ou encore humanitaire. Mais finalement, ces qualificatifs ne sont-ils pas incompatibles avec l'idée de tourisme en tant que tel ?
Oui, c'est vrai que ça dépend de quel tourisme, de la définition qu'on donne au tourisme. Évidemment, il y en a encore d'autres. Il y a encore, par exemple, on parle aussi, il y a aussi beaucoup d'écotourisme. Et dans chaque cas, c'est vrai qu'on peut trouver, disons, des effets secondaires indésirables. Et que finalement, le tourisme, c'est quand même avant tout une activité pour les gens, les occidentaux, les gens du Nord, les gens qui ont les moyens de se déplacer, de prendre l'avion, etc. Donc, le tourisme alternatif, c'est un petit peu la mauvaise conscience du touriste de masse, on dira. Et puis, évidemment qu'on peut essayer de trouver des alternatives qui soient porteuses de sens par rapport à une visite d'un pays du Sud, mais c'est quand même assez compliqué, je crois.
Finalement, que propose le tourisme alternatif pour s'inscrire dans une dynamique engagée et éthique ?
Alors, encore une fois, il y a plusieurs réponses à cette question. Par exemple, il y a aussi le slow tourisme, qui est un tourisme qui ne va pas forcément prendre l'avion, mais qui peut être un tourisme local, qui s'en remet, par exemple, à un âne comme guide.
Mais est-ce que c'est éthique et engagé ?
Disons qu'en tout cas, ça élimine un premier aspect négatif qui est quand même tout ce qui est relié au réchauffement climatique, par exemple. Et puis, ça lève aussi peut-être une disons, le problème qu'il peut y avoir dans la relation asymétrique qu'il y a entre le tourisme occidental qui se rend dans un pays du Sud et ce regard, ce lien qui, quoi qu'on dise, finalement, est toujours présent, même si on ne l'évoque pas, même si...
Mais le tourisme n'est pas qu'occidental.
Non, le tourisme n'est pas qu'occidental, certes, mais c'est quand même je dirais déjà... On peut dire déjà que tous les Occidentaux ne partent pas en vacances. C'est déjà un premier constat.
60% environ des Occidentaux.
Voilà, c'est vraiment quand même lié à un certain nombre de milieux sociaux, on dira. Et voilà, disons que c'est vrai que le tourisme alternatif, le tourisme durable, etc., toutes ces tentatives de... d'éliminer un petit peu les aspects négatifs du tourisme de masse sont peut-être pas qu'une bonne conscience, mais disons que en tout cas le résultat n'est pas vraiment probant dans le sens où toutes ces activités dites alternatives déjà on peut pas les mesurer, il y a pas de label, il y a pas d'éléments qui nous permettent de classer, de donner de valoriser plus ou moins ce tourisme par rapport à une éthique qu'on pourrait avoir.
Quoi. Pas encore, mais c'est un tourisme qui reste assez critiqué. Écoutons Emmanuelle Werner, directrice de Friend International Suisse, invitée par Alliance Sud ce jeudi 18 mai.
Dans ce domaine, on parle, il y a plein de terminologies différentes, tourisme solidaire, tourisme humanitaire, tourisme responsable, volontourisme, etc. Très impliqué dans un travail de sensibilisation par rapport à certaines dérives d'une certaine forme de tourisme. Et parce que au Cambodge, notamment, on a vraiment été aux premières loges de toute une industrie, de tout un phénomène qui s'est développé ces 10 dernières années. Et qui a vraiment des conséquences vraiment négatives sur la vie des enfants en particulier. Ce boom du nombre de volontourisme, par exemple au Cambodge, a donné naissance à vraiment une explosion du nombre d'orphelins.
Pierre, il semblerait aussi que d'autres associations aient un discours encore plus virulent en disant qu'on a remplacé la planche à voile par un pauvre, ou que le fait de payer pour aller jouer avec des enfants pauvres est une véritable hypocrisie. Finalement, quels sont les principaux écueils rencontrés par ces alternatives au tourisme de masse ?
Encore une fois, je pense que la réponse ne peut pas être unique. Il faudrait voir un petit peu les projets, chaque projet, mais disons, là, l'exemple qui est donné par Mme Werner... montre en fait que le désir de tous ces Occidentaux, tous ces jeunes Occidentaux, d'aller apporter donner un sens à leur déplacement, à leur voyage, est relativement rapidement récupéré, soit par des organisations, alors ça, elle ne s'est pas exprimée là-dessus, mais plus ou moins organisés qui profitent de cela, mais on peut parler aussi par exemple de l'écotourisme qui donne lieu parfois à des déplacements de population par exemple dans des zones, le WWF s'est d'ailleurs fait attaquer il n'y a pas longtemps sur cette question en Afrique, sur une zone où il a été accusé justement de forcer un petit peu les gens à se déplacer alors que c'était leur lieu d'origine, enfin de vie, leur territoire. Après, oui, moi j'ai un peu de peine à donner une conclusion, disons, quels sont ses principaux écueils.
Mais écoutez, dans ce que j'avais pu observer, ouais. Il y avait aussi un problème par rapport en fait à la main-d'œuvre du pays.
Oui.
Et il semblerait en fait que quand des personnes font du volontourisme, en fait, elles se substituent aux salariés en fait locaux.
Oui.
Ça, c'est déjà un premier écueil. Et il y a le manque de connaissance du contexte également dans lequel sont envoyés ces jeunes.
Oui. Disons dans la question du volontourisme, en tout cas, l'exemple qui était donné par Friends International, ce sont quand même les touristes qui payent eux-mêmes leurs billets, qui payent eux-mêmes absolument tout. Donc finalement, est-ce qu'ils prennent la place de travailleurs locaux? J'en sais rien.
Mais ça empêcherait certains travailleurs locaux de pouvoir travailler? Parce que quand il y a ces cycles de trois semaines,
sans doute, ça va assez. Sans doute qu'on peut trouver des exemples de ce type, ça, ouais, certainement. Mais maintenant, voilà, là, en tout cas, dans l'exemple donné au Cambodge, c'est vraiment un exemple qui n'est peut-être pas forcément représentatif de tous les pays. Je ne connais pas, mais disons, là, en l'occurrence, en fait, c'est vraiment une utilisation de cette soif d'éthique qu'ils peuvent avoir les jeunes maintenant que l'utopie a disparu et qu'il n'y a plus rien à part l'humanitaire pour répondre à cela.
Finalement, Pierre, est-ce qu'il est juste de penser que ces différentes déclinaisons du voyage profitent plus aux voyageurs du Nord qu'aux populations locales? Ce sera la dernière question.
Profitent, je ne sais pas, en tout cas, ils répondent probablement à des interrogations. On voit finalement qu'il y a un questionnement qui se fait quand même, vu qu'il y a cette demande de tourisme durable et alternatif, etc. Il y a quand même une prise de conscience que le tourisme de masse, le tourisme traditionnel, fait beaucoup de dégâts et apporte finalement assez peu de choses aux pays du Sud. En général, ce sont de grandes multinationales qui récupèrent, par exemple, dans les vols qui sont all-inclusive, où le vol, le logement, la nourriture, tout est en circuit fermé, il n'y a pratiquement rien qui reste sur place. Donc là, effectivement, on se dit qu'il y a vraiment un problème, quoi.
On retiendra donc alors que le tourisme reflète finalement assez bien l'ordre du monde, hein, avec ses disparités, ses inégalités. Le touriste semble rester avant tout un consommateur, parfois plus altruiste que d'autres sur un marché en pleine expansion. Mm-hmm. Merci en tout cas Pierre Flatt, membre de la direction d'Alliance Sud et responsable du centre de documentation de cette même alliance. Merci d'être venu répondre à nos questions.
Merci à vous.
Et merci Daniel pour la préparation de ce sujet, un dossier à réécouter sur notre site www.django.fm. Et tout de suite, on écoute Alchi de Tarot.